France Info.
En ce moment, vous l'aurez remarqué, il se passe des choses bizarres. Votre immeuble d'habitude si tranquille est devenu le lieu de travail préféré des livreurs de pizza. Et votre voisin, que vous n'entendiez pas, pousse désormais des cris dignes d'un démon échappé de l'enfer. Alors pas de panique, c'est une petite crise de 30 jours que les médecins appellent la coupe du monde. Bonjour Eric Nolot.
Bonjour. Vous êtes... Et je suis moi-même en pleine crise.
Exactement. Alors vous êtes essayiste, chroniqueur, télépréventateur aussi. Vous sortez quand la coupe déborde sur votre passion du football. Vous êtes comment vous quand vous regardez un match?
Je vous conseille pas. Je vous conseille de garder l'image que vous avez, qui est peut-être positive, parce que vous allez découvrir un autre être qui est très chauvin, qui est très bourrin, qui est d'une extrême mauvaise foi et qui est donc un supporter chauvin de base. Je conteste l'arbitrage, j'insulte l'adversaire, fait tout ce que normalement on n'avoue pas, mais non, j'ai une autre personnalité, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde de Viol Football.
Alors, quand la coupe déborde, c'est 10 matchs hein, et une grève, puisqu'on va en parler aussi, qui font figure de chapitre. Comment vous avez choisi justement ces matchs?
Il faut que ça soit des matchs qui soient entrés dans la légende, c'est-à-dire que ce soit passé pendant les 90 minutes ou plus prolongation. Un fait qui les fait entrer dans une autre dimension. Alors l'exemple emblématique, évidemment, c'est le coup de boule de Zidane. C'est-à-dire le plus grand joueur avec Platini, le plus grand joueur français de tous les temps, à 5 minutes ou 10 minutes de raccrocher et de certainement de gagner une deuxième Coupe du Monde, parce que les Italiens étaient vraiment pas bien à ce moment-là. Un coup de folie, et le match devient beaucoup plus célèbre pour ce coup de boule que pour la victoire de l'Italie. Donc, la coupe a débordé, donc je retiens ce match.
Et il y a des matchs, par exemple, qui ont marqué aussi l'actualité, comme Angleterre-Argentine. Ce match est devenu un symbole...
Parce que les deux pays étaient en guerre, donc c'était déjà très tendu. Et à 5 minutes de distance, Maradona a fait deux fois basculer ce match. Il est entré deux fois dans la légende. Une fois avec la main de Dieu, il a triché, il a marqué de la main. Et 5 minutes plus tard, avec le but du siècle, où il passe en revue toute l'équipe anglaise. Là aussi, c'est un exemple emblématique.
Alors, ce qui est intéressant dans le livre, c'est pas seulement vos souvenirs de foot à propos de ça. En fait, vous essayez quelque chose d'incroyable, Eric Nolot, c'est essayer de réconcilier foot et littérature. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont aimé le foot. On pense à Camus, bien sûr. Mais vous essayez ça parce que vous truffez de références. Et notamment, alors moi, il y en a une qui m'a vraiment étonné. C'est à propos de CNISA, donc la grève en Afrique du Sud. Et là, donc Raymond Domenech va lire une lettre, on le sait tous, écrite par les joueurs. Et là, vous parlez de Rimbaud qui écrit la lettre du voyant, et Domenech, c'est la lettre du malvoyant.
Oui, la lettre du malvoyant. Mais faites l'expérience, relisez une saison en enfer, et vous verrez que tout ce qu'a écrit Rimbaud était tout à fait prémonitoire de ce qui allait se passer à Naïsna. Il a écrit une saison en enfer, et nous, à Naïsna, nous avons vécu une fin de saison en enfer. Donc le débat théorique, est-ce que c'est compatible, ça me passe complètement au-dessus de la tête, parce que ça fait partie des données essentielles et immédiates de mon existence.
Il y a aussi ce chapitre incroyable, je pense que c'est. Moi, c'est mon préféré, c'est la Coupe du Monde 66, c'est la Corée du Nord voilà, qui bat l'Italie. Alors, on voit souvent ce match d'ailleurs quand on regarde un petit peu l'histoire du football, mais c'est vrai qu'il faut se le rappeler. La Corée du Nord en 66, donc en pleine guerre froide, bat l'Italie, donc c'est la Coupe du Monde en Angleterre, on les surnomme les moustiques rouges, c'est ça la Corée, et il y a un engouement en Angleterre autour de cette équipe.
C'est mon chapitre préféré, parce que d'abord le match est incroyable, parce qu'ils sortent de nulle part, c'est un pays tout jeune qui n'a aucune tradition footballistique, ils battent les grands Italiens, et en effet, comme tous les matchs ont lieu à Middlesbrough, qui est une cité ouvrière, une ville prolo, les gens du coin prennent fait et cause pour l'équipe coréenne et les soutiennent. Et quand ils se sont qualifiés, il y a 5000 personnes de Middlesbrough qui sont allées voir le match suivant pour soutenir la Corée du Nord à Liverpool. Mais ce qui est encore plus comique, c'est que comme tout le monde était sûr que l'Italie allait se qualifier, ils avaient donc logé l'Italie dans un monastère. Donc c'est les Coréens du Nord qui héritent du monastère. Seulement, eux, ils n'avaient jamais vu d'imagerie religieuse. Donc un homme sanguinolent en croix, ça leur a collé des cauchemars pas possibles. Et à mon avis, ça explique en partie qu'ils se soient effondrés en quart de finale.
Juste, Eric Nolot, il va falloir parler de l'instant trauma quand même de ce livre. Bon, à savoir France-Allemagne 82, je sens
sûr.
Que... Voilà, mais oui, j'en suis sûr, parce que...
Peux garder une minute de silence, plutôt.
Non, parce que je dois vous le dire, moi je suis la génération juste d'après, et les générations futures, on a dû vivre avec ce match, donc c'était un peu un coup de pression. Et là, vous écrivez que c'est le match du siècle, pour vous, tout simplement. Mais vous invoquez aussi la tragédie grecque par le biais d'une citation de Jacqueline de Romilly, alors c'est là où on mélange les deux, je cite, c'est « L'épopée racontait, la tragédie montra ». Pour vous, c'est vraiment ça?
C'est le match le plus proche, dans l'histoire du football, c'est le match le plus proche de la tragédie grecque. Par le fait qu'il y a eu un retournement de situation, les Français menaient 3-1, se font remonter 3-3, perdent au tir au but. Il y a un deuxième point, c'est que quand Battiston est agressé par Schumacher, quand c'est le vilain Schumacher, on dit Schumacher.
J'ai compris.
Quand c'est le gentil, on dit Schumacher.
Comme Mitterrand et Mitterrand.
C'est exactement le même principe. Quand il est évacué sur une civière, Platini lui tient la main, parce que Battiston est dans le coma, il est passé à deux doigts de la mort, et c'est Achille et Patrocle sous les murs de Troie. Et d'ailleurs, c'est si vrai que quand la crise atteint le sommet de l'État, il y a une germanophobie pas possible en France, Helmut Kohl se fend d'un télégramme à Mitterrand où il lui dit en effet les dieux, comme à l'époque antique, ont choisi leur camp, mais ceci, cela. Donc lui-même, Helmut Kohl, a parfaitement saisi la dimension tragique de la chose.
La mise à jour d'Éric Nolot, c'est à suivre toute la journée sur France Info.
France Info.
Avec nous, Éric Nolo, essayiste, chroniqueur, pour son dernier livre intitulé « Quand la coupe déborde », où vous racontez votre plaisir du foot, de la coupe du monde, et vous tentez de réconcilier foot et littérature. D'ailleurs, pourquoi longtemps, en fait, finalement, le sport et le milieu intellectuel ont été fâchés? Pourquoi c'était presque sale de parler sport?
En fait, ça s'est passé en trois temps. Au début, ça se passait pas trop mal parce qu'en fait, les joueurs de football étaient souvent des journalistes, des écrivains, plutôt des intellos. Ça, c'est le début. Ensuite, il y a eu la professionnalisation. Quand vous entrez dans un centre de formation à 14 ans ou même plus tôt maintenant, que vous êtes vendu à 10 ans comme déjà une star du foot, il n'y a plus aucun rapport avec la littérature, avec la culture, avec l'éducation. Et donc, moi, j'ai passé toute mon enfance où, quand je disais, ce qui était vrai d'ailleurs, que je voulais devenir journaliste sportif, c'était l'accablement autour de moi. C'était un gros mot, quoi. Et puis, à partir de 98, il y a eu un nouveau retournement, c'est-à-dire il y a de plus en plus de livres très intéressants et même de très haut niveau qui ont paru sur le foot. Donc c'est un peu en dents de scie, ça ne s'est pas passé de manière uniforme.
Quand vous étiez d'ailleurs éditeur, c'était une passion cachée ou vous l'avez toujours avoué, cette passion pour le football, ou c'était un milieu où il ne fallait pas trop le dire?
Non, je l'ai dit, il y avait d'ailleurs quelques éditeurs footeux que je connaissais, avec lesquels j'échangeais, mais une fois encore, comme ça fait partie des données immédiates de mon existence, moi je commence toutes mes matinées en lisant l'équipe et ensuite je lis des livres. Ouais. Mais c'est vraiment quelque chose de très naturel sur moi. C'est ni de la pause, ni quelque chose que j'ai théorisé ou intellectualisé. C'est comme ça.
D'ailleurs, dans votre livre, là, vous en parlez, c'est quand vous allez à un salon littéraire, vous êtes plutôt intéressé à rencontrer Raymond Coppa, la légende, que le dernier écrivain à la mode.
Incroyable. Oui, j'ai vu ça. C'était à Saumur. Ouais. Tout d'un coup, sur le programme, je vois qu'il y a Coppa et que ça ferme dans 5 minutes. J'ai piqué un sprint et je suis tombé sur Coppa. Et quand je suis rentré à la maison, tout fier de l'autobiographie de Coppa, signée très gentiment par lui, mes deux enfants, supporter du PSG, personne n'est parfait, m'ont dit, mais c'est qui Coppa? Et là, j'ai compris que...
Alors, vous avez dit personne n'est parfait parce qu'on apprend dans votre livre que vous êtes fan de l'OM.
Ouais, c'est ça. Je suis fan de l'OM et j'ai élevé deux supporters du PSG.
Ça vous rapproche d'Emmanuel Macron, finalement, Éric Nolo?
Oui, il n'y a pas
beaucoup... Ou de Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas.
Non, parce que Macron, c'est une passion sincère. Mais Mélenchon, il déteste le foot, il a fait des déclarations incroyables du genre, mais pourquoi on ne joue pas avec les mains, ce qui est quand même un peu étrange. Et je pense que c'est un cas d'opportunisme, comme il veut s'installer à Marseille. Enfin, briguer Marseille sans s'intéresser au football, c'est un peu compliqué.
Une question à propos de vous. Éric Nolo, est-ce qu'on vous craint toujours?
J'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression.
Est-ce que finalement, vous savez, on retient toujours dans les films les méchants. Oui. Est-ce que ça vous plaît finalement d'être le méchant?
Moi, c'est pas ce que je cherche. Je cherche juste à restituer mon expérience de lecteur. Or, la télévision, la radio aussi parfois, est basée sur la promotion. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour emmerder l'invité. Et vous n'êtes même pas là pour lire le livre. Vous êtes là pour le mettre en valeur. Effectivement, moi, j'ai inauguré avec d'autres une approche un peu différente du métier. C'est-à-dire, vous lisez d'abord avant de donner votre avis. Oui. Ça prend un peu plus de temps, forcément, mais ça donne des avis un peu plus motivés, je me plais à le croire.
Mais vous avez l'impression tout de même qu'aujourd'hui, les médias prennent encore des risques, où on est quand même tout de même dans une ambiance, dans une époque où tout le monde évite, ne veut pas se toucher, ne veut pas prendre une position.
Moi, je diviserais l'époque. Ce que vous dites est probablement vrai du milieu intellectuel et artistique, curieusement. Il y a très très peu de gens qui osent dire vraiment ce qu'ils pensent en politique. Ils se font souvent secouer, les politiques, sur des plateaux, dans l'émission que je fais avec Zemmour aussi, parce que c'est une émission un peu à part, mais même sur des plateaux, on fait venir des gens de la société civile qui les interpellent de manière différente. Mais dans le milieu artistique et culturel, sont peut-être des gens plus fragiles, les pauvres, ils supportent très très mal la critique.
Au moment où vous étiez, vous, éditeur, et maintenant, vous trouvez qu'elle a changé, cette littérature française? On dit souvent, pour ceux qui s'intéressent à la littérature, que la littérature étrangère est plus intéressante.
Non, parce que ce jugement vient de gens qui lisent pas. Non, moi, ce que j'observe et ce dont je me réjouis, c'est qu'on en a un peu fini avec la mode de l'autofiction. Donc je trouve qu'on est passé à autre chose, on est revenu à la narration, on est revenu au personnage, on est revenu à l'histoire. La littérature française se regarde un peu moins le nombril et regarde un peu plus le monde alentour. Je peux que m'en réjouir.
Mais les intrigues de pièces cuisine, c'est terminé. Quoi.
Oui, on en a beaucoup. Il va en rester encore quelques-unes, mais c'était un genre dominant, ça devient un genre minoritaire.
Une dernière chose, avec nous, on dit toujours qu'il ne faut jamais rencontrer ses idoles. Quand vous rencontrez un footballeur, vous n'êtes pas déçu?
J'ai rarement été déçu. En fait, curieusement, Coppa était type charmant, malheureusement décédé depuis. Je suis assez copain avec Emmanuel Petit, qui est un type tout à fait extravagant, original et très sympathique. Je dois dire, j'ai pas eu de mauvaises expériences. Ce sont des gens d'un apport très agréable.
Et Ribéry, Anelka, des gens comme ça.
C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de discuter littérature avec Ribéry ou lettres de motivation avec Anelka. Non, mais voilà. Mais ça viendra peut-être. Hein, non. Mais vous savez, c'est ce que je vous disais. J'ai un pied dans la littérature et un pied dans le football. Je suis très ouvert aux rencontres. Il y a toujours quelque chose à tirer. Mais par exemple, j'ai pas tellement envie de rencontrer Ronaldo ou Messi. C'est pas des gens qui dégagent quelque chose. On se dit, j'aurais adoré passer une soirée avec Coppa, par exemple.
Et tout ça, c'est à voir, en tout cas, et à lire, surtout dans La Coupe des Bords. C'est publié chez Stock. Merci beaucoup, Éric Nolo, d'avoir passé la journée sur France Info.